Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, c'est ce numéro consacré au bâtiment optimisé avec nos amis d'Axéo. Bâtiment optimisé, on pourrait dire d'ailleurs les copropriétés optimisées, puisqu'on va parler de rénovation énergétique des copropriétés, qui sera le sujet de notre présente tribune. Je rappelle que, comme d'habitude, le podcast est à récupérer sur toutes les plateformes qui vont bien, si vous n'êtes pas en direct, les amis. Pour parler de ce sujet brûlant des copropriétés, où on a un vrai sujet de préoccupation, à la fois par la contrainte normative, mais aussi le schéma directeur du gouvernement, notamment sur l'échéance à 2034, pour arriver peut-être à une forme de neutralité carbone. On va en parler avec nos intervenants du jour. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le président d'Axéo France, qui nous fait le plaisir de participer à cette tribune. C'est Jérôme Spencer. Bonjour Jérôme.
Bonjour Sylvain, bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous Jérôme. Vous êtes accompagné de Mathieu Ledrezen, directeur commercial France et Europe du groupe Axéo. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. L'incontournable dans le métier, connu, reconnu. Il vient de prendre la présidence de Pluriance. Il est le président du directoire du groupe Sergique. Étienne Desquiré est avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Étienne. On va parler d'un sujet très important les amis, la rénovation des copropriétés en France. Je vous fais le pitch rapidement, on va essayer de faire un état actuel effectivement de la situation. Elle n'est pas forcément extraordinaire, mais on va en parler et essayer d'apporter des solutions, puisqu'on veut avant tout que les échanges que nous avons entre nous apportent des solutions concrètes. Le contexte politique et sociétal et environnemental qui impacte bien évidemment les échéances et les réglementations. On va essayer de vous donner une clé de lisibilité, les stratégies notamment des gestionnaires, les bonnes pratiques. Bref, les sujets qu'il ne faut pas omettre, puisque les copropriétés, c'est les deux tiers de l'habitat en France, donc inutile de dire que ça nous concerne tous. Voilà pour le sujet du jour. C'est parti pour le débat.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Messieurs, j'aimerais qu'on commence par vous, Étienne. Vous êtes connu maintenant dans l'industrie immobilière. Le groupe Sergique est un poids lourd aujourd'hui de la copropriété, mais pas que, des résidences gérées, de l'administration de biens, de la transaction immobilière, une capillarité géographique sur l'ensemble du territoire. Le sujet de la copropriété, on va essayer de prendre un sujet un peu plus large pour démarrer. Avez-vous l'impression que lorsqu'on parle de cette contrainte qu'on impose maintenant aux copropriétés, qu'on se dise finalement que les échéances qui vous ont été fixées, presque par injonction, manquent cruellement de concertation, et quand on voit l'état actuel du volume total à la fois des copropriétés rénovées, celles qui sont en cours, on se dit qu'on est quand même très loin de l'objectif.
Les contraintes qui ont été mises, autant je pense qu'on les comprend tous, hein, la rénovation énergétique, c'est un sujet que nous acceptons et nous sommes complètement moteurs tous. Voilà, effectivement, le sujet n'est pas là, le sujet est sur le calendrier. Il y a une véritable volonté politique, nationale et européenne, puisque les directives nationales viennent des directives européennes. L'ambition est affichée. Maintenant, la question, c'est cette ambition est-elle réaliste ? Et là, clairement, notre avis, c'est non. Le timing est beaucoup trop serré, en tout cas pour que nous puissions traiter l'ensemble des copropriétés et l'ensemble des logements, notamment classés G et F, qui sont les logements les plus énergivores. Donc voilà, il y a une dichotomie entre une volonté affichée que nous soutenons et un réalisme qui n'est pas là. Alors, la concertation, de fait, vous l'avez dit, il n'y en a pas eu.
Elle a été faite a posteriori, finalement, après que les choses aient été faites. Autre question, on a vu que les copropriétés, certaines, se dégradent de façon très cruelle, parfois, puisqu'il y a eu des drames. Hein. Il y a eu des drames à Lille, il y a eu des drames à Marseille, notamment. Pensez-vous, justement, que la profession, ou l'industrie de la profession aujourd'hui, partage le même constat ? Aujourd'hui sur à la fois la nécessité d'une rénovation, et je vais enfoncer le clou, ne pensez-vous pas que ce sujet, il est d'abord éminemment politique ?
Le sujet est très politique, mais c'est le rôle des politiques d'influencer la société, et est-ce qu'on veut des logements peu énergivores ? C'est le rôle des politiques. Sur la profession, je ne rencontre aucun professionnel dans quel que soit son domaine, hein, gestionnaire, audit, diagnostiqueur, conseil, qui ne soit pas complètement acquis à la cause et qui œuvre quotidiennement à essayer de trouver des solutions pour justement avoir un parc de logements faiblement énergivores. Voilà. Donc, je pense que vraiment la question n'est plus de savoir si on veut. La question, c'est de savoir à quel rythme et puis, bien sûr, comment. Parce que là, il y a des défis énormes. Donc, il est temps de passer vraiment au pragmatisme. C'est un peu la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'incantation. Des choses ont été tentées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les différents acteurs, dont le gouvernement. Hein. Mais ça manque de pragmatisme parce que les solutions n'existent pas vraiment encore.
Merci Étienne. Alors Jérôme Spencer, alors vous avez une particularité, c'est que effectivement vous avez vous aussi une capillarité géographique, donc vous connaissez tous les territoires. Est-ce que vous pensez également que le dispositif qui finalement quelque part vous met en relief, puisque vous êtes nécessaire aujourd'hui au développement, au suivi à la maîtrise d'ouvrage, donc à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage non seulement des copropriétés qui font appel à vous, qu'on est à la fois sur un calendrier contraint et qui nous rend un peu schizophrène, puisque quand on voit la taille du marché, on se rend compte que là, il y a une vraie difficulté structurelle dans le pays.
Alors Sylvain, je confirme, je reviens juste à l'obligation actuelle, la première échéance qui est la mise en place d'un plan de travaux pluriannuel pour les grosses copros, donc de plus de 200 lots. Donc aujourd'hui, on ne dit pas toutes les copros doivent l'avoir. On a un échéancier, mais qui est challenging. Aujourd'hui, on a déjà émis beaucoup de devis sur l'ensemble des copros. Aujourd'hui, on doit prioriser. Donc on a un gros effort de pédagogie envers les syndics, les copros, pour leur dire, attention, déjà commençons par ce qui est entré en vigueur, à savoir les grosses copros de plus de 200 lots. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a un étalonnage sur 3 ans avec un volume qui sera extrêmement compliqué à réaliser. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est commencer par la phase d'audit pour après enchaîner la partie travaux. Donc le point de départ de la rénovation, c'est le constat, c'est l'audit.
Et c'est les différents plans de travaux. L'échéance, c'est 2034.
Alors, échéance aujourd'hui, c'est d'abord, on commence par le fameux plan de travaux pluriannuel sur les grosses copros à partir du 1er janvier 2023. Ensuite, les plus de 50 lots au 1er janvier 2024 et le reste au 1er janvier 2025. Donc aujourd'hui, on a cette échéance-là. Après, pour la partie travaux, on est juste challengé par les lettres qui sont sur des appartements individuels. Hein, si on raisonne collectif, on parle aujourd'hui de l'obligation d'un plan de travaux collectif à l'échelle d'un immeuble, d'une copro. Après, la sanction est au niveau individuel, au niveau de l'appartement. Donc on voit qu'on a une légère dichotomie. Hein. Aujourd'hui, on parle de collectif, mais on raisonne en sanction d'un côté individuel.
Donc quand vous dites, attendez, qu'on comprenne bien, quand vous dites sanction, il y a 7 lettres énergétiques, voilà. Donc jusqu'à F et G. Et donc l'idée du législateur, c'est qu'on se rapproche d'une lettre C ou D.
Tout à fait.
EFG sont condamnés, entre guillemets,
sont condamnés suivant un rythme. Calendrier. Mais là, on raisonne à l'échelle d'un DPE individuel.
D'un DPE, absolument.
Hein, donc, alors que quand on parle d'un plan de travaux pluriannuel et d'un DPE collectif, on raisonne à l'échelle d'un immeuble.
Tout à fait. D'ailleurs, on va expliquer ce qu'est les éléments. Concrètement, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'à la fois, à l'instar de ce que nous dit Étienne, il n'y a pas de débat, on y va, on est tous d'accord. Mais que là, on a un calendrier contraint qui va être quand même très compliqué à tenir. On est d'accord là-dessus.
Elle est compliquée puisque aujourd'hui, on va réaliser des travaux qui vont bénéficier à l'échelle d'un immeuble. Donc on parlait du challenge du copro qui va avoir un appartement qui sera situé côté nord, qui risque d'avoir une lettre moins bonne, une lettre F, une lettre G, qui va participer à des travaux de rénovation qui vont améliorer l'immeuble, donc la lettre de l'immeuble, le DPE collectif, à l'échelle de l'immeuble, sans pour autant que lui ait nécessairement une note bien meilleure. Donc c'est un vrai challenge qu'on va avoir à expliquer au niveau des AG, au niveau des conseils syndicaux, pour dire comment on fait pour motiver l'ensemble des copros, sachant que certains vont plus en bénéficier. Donc ça, c'est un vrai challenge de la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, hein, qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer. Mais c'est aujourd'hui une contrainte qu'on risque d'avoir à gérer. Et sûrement que vous avez à gérer aujourd'hui, au quotidien.
Mathieu, alors vous avez une particularité, bien évidemment, dans votre activité, c'est que vous les connaissez tous, hein, les syndics. Vous passez votre vie sur les routes de France à voir les syndics. Chaque bâtiment est hétérogène par nature. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, souvent, on a cette volonté un peu jacobine de standardiser les choses, alors qu'en réalité, chaque immeuble, il est tangible, il n'est pas frangible, hein, comme dirait l'autre. Et comment vous voyez, si vous pouvez, là, juste en préambule, la photographie de la situation actuelle, indépendamment du fait, effectivement, qu'on a un calendrier qui impose aux copropriétés à partir de 100 lots d'avoir ce qu'on appelle le PPT, donc plan pluriannuel de travaux, et qu'ensuite ça va aller crescendo, bien évidemment, pour qu'on arrive in fine à avoir des copropriétés vertueuses. Votre analyse sur la question ?
Déjà, la situation actuelle, en fait, il y a deux choses. Il faut rentrer dans une logique, comme disait Étienne, de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'entasser un certain nombre d'études, par exemple. Les différentes réglementations, on s'appuie sur la loi Grenelle 1, Grenelle 2, loi Allure, aujourd'hui Climat et Résilience, pour avoir un certain nombre d'obligations qui ont été d'abord des audits énergétiques, des DPE collectifs. On a parlé du DTG, aujourd'hui on parle du 3PT, on parle d'un nouveau DPE collectif, on parle d'un nouveau DPE individuel qui devient coercitif, alors qui devient opposable à titre individuel, mais qui est relativement coercitif, puisque vous vous retrouvez quand même dans des situations où vous avez des investisseurs donc, qui ont dépensé de l'argent ou qui ont un patrimoine, qui va demain poser un vrai problème de comment je fais pour le louer, comment je fais pour rentabiliser mon investissement. Et ça devient une vraie problématique. Il y a aussi un autre point, c'est que d'un point de vue technique, vous l'avez dit, un bâtiment ne fait pas l'autre, et un bâtiment est par nature, de toute façon, très... très hétérogène. Il n'est absolument pas dans une notion homogène qui permet à tout le monde d'être égalitaire.
Des mêmes moyens financiers. Certains copropriétaires, parce qu'il y a une espèce de mythe qui consiste à dire qu'un copropriétaire par nature, il est riche, il a les moyens. Pas forcément.
Non, bien sûr que non.
Hein, et bien évidemment, une copropriété, on est bien d'accord, est gouvernée par une démocratie.
C'est ça.
Si ça bloque, il n'y a pas de travaux.
La grosse différence que l'on connaît, il y a assez peu de temps, on avait défini par exemple, pour parler des ouvrants, c'est-à-dire le changement des fenêtres. On avait défini les travaux individuels d'intérêt collectif. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on en vient à devoir penser à l'inverse. C'est pensons d'abord aux travaux collectifs pour l'intérêt individuel. Ben c'est oui, comment je vais faire pour faire en sorte que ma facture, elle baisse, pour que ma lettre énergétique, elle soit dans une performance individuelle cohérente avec le marché, pour que je puisse louer, pour que je puisse continuer à voir évoluer mes loyers, et surtout que je puisse faire vivre mon patrimoine.
Merci. Là, c'est pour bien situer le sujet. Je vous propose qu'on entre, et c'est le principe de la tribune, dans le concret et les solutions, c'est le décryptage des experts.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
La rénovation des copropriétés en France, comment on envisage ce sujet, ce projet, à l'échelle d'un groupe comme Sergic ? Par le B.A.B.A., comment on fait concrètement ? Quand vous êtes sur le terrain, vous avez vos gestionnaires de copro. Alors vous avez une particularité, Étienne, c'est que vous avez été le premier à créer un service qui s'appelle Syndic One pour des copropriétés qui n'étaient finalement pas intéressantes sur le marché ou qui n'entraient pas dans le scope. Et vous avez dans votre groupe une offre très complète de prestations pour servir le monde de la copropriété. Ce sujet-là est un sujet majeur, je sais que vous avez pris à bras le cœur. Je rappelle aussi également que vous êtes le président élu de Puriance. Et donc forcément, ça reste aussi un sujet à défendre. Concrètement, comment on fait ?
Alors concrètement, juste pour les volumes, hein, je pense que c'est intéressant de savoir les volumes.
Oui, les chiffres.
Donc je ne peux parler que des copropriétés gérées par des professionnels. Je n'ai pas les informations sur les copropriétés en syndic bénévole. On estime qu'actuellement, classé G, ça représente 5% des logements. À peu près.
Sur combien ? Sur 37 millions de logements, à peu près ?
Oui, je suis plutôt à 30 millions, mais voilà. En tout cas, 5% des logements qui sont actuellement occupés, hein, il y a des propriétaires qui les occupent ou il y a des locataires, 5% des logements, c'est quand même pas rien. Ouais. Et si vous acceptez la lettre F, alors là, vous passez à un total de 20%, à peu près. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du volume du parc de logements privés.
On est entre 7 et 8 millions de logements concernés.
Voilà, je pense que ça pose quand même le débat. On n'est pas sur c'est pas une petite manœuvre. Rénover un tel nombre de logements, ça impose une forme de respect. Dans les chiffres que vous donnez, il y a les syndics bénévoles, il y a de tout.
Et quand vous entendez par exemple que la moyenne de réno par unité, par appartement, oui, est d'environ 20 000 euros, et
27
qu'on dit
que
27 000 euros,
27,
et que le total fait 130 milliards d'euros de chantier, on a l'impression que c'est le chantier du siècle, ou même colossal, quoi.
Ah, mais ces chiffres-là, oui, alors, si on met les travaux de rénovation globale, puisqu'il y a juste une aparté fait par Mathieu, hein, c'est qu'à un moment donné, on parle bien de rénovation globale, c'est pas appartement par appartement, c'est une rénovation globale qui est considérée comme la seule rénovation qui a vraiment du sens, en termes d'énergie. La moyenne actuellement constatée, c'est diffusé d'ailleurs sur les différentes plateformes des acteurs, c'est à peu près 27 000 euros en moyenne. tout immeuble est particulier, donc prenons ça avec précaution, c'est l'effet de la moyenne. Donc 27 000 euros. Et si vous multipliez par le nombre de logements, oui, on arrive à plus de à des sommes de plus de 200 milliards. Oui, c'est colossal. Et bon, il y a déjà de quoi faire. Hein. Je pense que là, l'enveloppe globale est de 20 milliards de mémoire qui a été pré-réservé sur les 3 ans. Donc on peut dire que c'est 10% du chantier. Je pense que le sujet pour l'instant, c'est faisons déjà ces 10%, on traitera les 90 après. Hein, mais voilà, je pense que c'était important de restituer le contexte. Et je pense aussi qu'il est important d'évoquer juste que derrière, il y a des habitants, il y a des locataires, il y a des habitants. Les chambres de bonne, par exemple, à Paris, sont essentiellement classées G. Par définition. Et les chambres de bonne classées G, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus être louées, et en particulier à des étudiants. Donc, je me permets de le dire, parce qu'on peut être noyé de beaucoup de concepts ou de beaucoup de chiffres, mais ça veut dire qu'il y a pas mal de milliers d'étudiants à Paris qui ne vont plus, normalement, pouvoir se loger dans les chambres d'étudiants à partir de cette année. C'est un sujet.
Parce que voilà. La loi, on va repréciser, la loi interdit désormais la location.
Oui, au 1er janvier 2025, pour les G classiques. Là, pour l'instant, c'est déjà le cas pour ce qu'on appelle les G+, donc vraiment les très, très énergivores. D'accord. Mais on ne va pas dramatiser, hein, mais au 1er janvier 2024, oui, si vous regardez, les chambres de bonne ne sont plus louables. Ouais. Et je pense que pour les Parisiens et les Parisiennes, ça visualise le sujet. Là, on est dans le concret, hein, on est dans l'humain. Donc, ce chantier, il est énorme. Oui, il faut le prendre à bras-le-corps. Pourquoi on ne peut pas actuellement le prendre à bras-le-corps? Puisque la question, vous l'aviez posée, Sylvain, c'est-à-dire, est-ce que concrètement, à ce jour, il y a beaucoup de rénovations? Non, il y a très, très peu de rénovations. On est sur des mises en chantier qui sont très, très faibles. Je parle encore une fois du logement privé. Je ne parle pas des bailleurs sociaux ou autres. Hein. Je parle du logement privé.
Sur votre groupe, par exemple, est-ce que vous avez des stats là-dessus ou pas?
On a tous un peu nos stats, mais bon, on fait des tests. On a des immeubles emblématiques, mais on est très, 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 très faible. On est à 2-3% du parc. Je pense que je suis déjà généreux. Et je pense qu'à Sergi, on est à peu près révélateur de ce que font l'ensemble des professionnels.
Très, très juste.
Donc, on avance, on apprend. Hein, y a une courbe d'expérience. Ça s'improvise pas, ce métier-là, de s'attaquer à des problématiques de rénovation énergétique. C'est nouveau. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Hein. Mais en termes de volume, on est sur des tout petits volumes. On n'est pas au rythme nécessaire pour aller traiter des millions de logements. Pour l'instant, on n'en est pas encore à l'industrialisation totale. Et les problématiques, comment on s'y prend? C'est déjà faire un acte de pédagogie, c'est-à-dire expliquer aux habitants qu'il faut y aller. Alors, certes, parce que de toute façon, la loi l'impose. Il faut avouer aussi qu'on comprend que cette loi soit produite, c'est-à-dire expliquer qu'on ne peut pas continuer non plus à consommer de l'énergie et que, bon, la loi dit les choses, mais on n'est pas aussi, on est aussi des acteurs de la société. Donc, il y a un acte de pédagogie, ça prend du temps, ça se fait en conseil syndical, ça se fait par des communications régulières et puis ça se fait en assemblée générale qui, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que peu, mais c'est toujours utile de le dire, une assemblée générale, c'est une fois par an. Donc, le timing, quand vous avez un timing de faire une action en 2 ans, en sachant qu'en 2 ans, vous avez 2 assemblées générales, porter le sujet, le mettre à l'assemblée générale et obtenir une décision de mise en travaux en 2 ans, c'est impossible. Il faut laisser le temps au temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, probablement 3 cycles. 3 cycles. Je pense que 3 cycles, on est... Donc 3 ans, hein, faisons... Enfin, 3 ans. 2 années révolues, en tout cas.
Si on prend d'ailleurs les échéances qui sont fixées par l'État, on est donc déjà d'emblée, techniquement ou structurellement, hors délai, quoi.
Oui, mais c'est là où vous avez posé la première question, rappelez-vous, c'était est-ce qu'il y a eu concertation? Je pense que concertation sur l'ambition... C'est le rôle du politique d'aller fixer l'ambition. Sur la mise en place de ça, oui, il n'y a pas eu de concertation. D'accord. Et des assemblées générales une fois par an ne permettent pas une prise de décision aussi impliquante que ça. Hein. Une rénovation d'un immeuble, c'est de l'ordre d'1 million d'euros. Sur un immeuble de 60 logements, ce qui est une norme assez classique, c'est 1 million d'euros. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. Et c'est quand même quelque chose de contraint. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, ce qui consomme beaucoup de temps. C'est ça qui n'a pas été concerté. C'est-à-dire, le yaka fouque, à un moment donné, doit passer sur... Bon, maintenant, concrètement, encore une fois, comment faisons-nous? Et là, on a le cycle des assemblées générales. Maintenant, je pense que les professionnels que nous sommes ne reprochons pas le fait de... on prend nos responsabilités. C'est à nous de faire acte de pédagogie. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas notre rôle de syndic. C'est notre rôle. Il faut juste nous laisser le temps nécessaire pour faire une acceptation de ses clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ben, c'est une fois que vous avez une acceptation de la majorité des copropriétaires, puisque vous l'avez rappelé, c'est une démocratie, c'est une assemblée générale avec des votes, et il faut lever les résistances. Ben, on arrive sur le montage du dossier, disons-le comme ça, donc le côté un peu le projet. Et là, ben, vous avez quand même la question de, au fait, quels critères de rénovation énergétique nous voulons-nous ? Si vous êtes une copropriété, je vais raisonner collectif. Hein, normalement, on doit raisonner audit individuel, Mathieu l'a rappelé, mais une copropriété qui est très énergivore, l'effort d'investissement va être très très élevé pour revenir à des notes convenables. Si c'est quelques travaux, rénovation de la chaudière, etc., l'enjeu est moins fort. Bon. Mais donc, d'où l'audit, l'analyse de l'audit, le projet et les coûts d'investissement. Une fois que vous avez ça, il faut s'atteler au financement. Alors là, on arrive sur les points durs, pour ne pas dire très durs. Ben, le financement, c'est un financement bancaire ou c'est l'épargne.
Donc, des aides d'un côté et une soustraction avec un reste à charge pour la copropriété qu'il faut financer.
Ben oui, quand vous annoncez à un copropriétaire qu'il doit dépenser 27 000 euros, ce qu'il n'a pas choisi, ça lui est quand même à imposer.
Ah oui, oui,
on
ne
lui a
oui,
pas
oui,
vraiment demandé son avis. On a réussi à le persuader, mais on dit qu'il faut sortir 27 000 euros. Ouais. Hein, et je pense qu'on n'est pas tous capables de sortir 27 000 euros comme ça. Ben, soit il a l'épargne, soit il s'endette. Voilà. Et il faut le dire, le gouvernement a mis en place des aides qui, sur le principe, sont réelles. Il a vraiment fait un gros travail. Hein. Je ne suis pas toujours tendre avec les pouvoirs publics, mais il faut aussi avouer que des fois, ils font des choses en la matière vraiment percutantes. Donc, il y a eu pas mal de systèmes de subventions, de primes, prime rénov, enfin tout ça, vous en avez entendu parler, qui peuvent aller, c'est ce qui est évalué, jusqu'à 30% de l'investissement. Donc, c'est significatif. Donc, ça existe. Bon, le seul problème, c'est que c'est un peu une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de mécanismes de subvention qui s'empilent, qui se complètent, qui se contredisent, qui sont mine de rien régionales, c'est-à-dire rarement uniformes au niveau national, et que nous avons énormément de mal à expliquer à nos copropriétaires qui sont quand même les payeurs finaux. Et même nous, des fois, syndic, on a un peu de mal à les comprendre. Voilà, avec des subventions qui arrivent avant travaux, en cours de travaux, en fin de travaux, préfinançables. Dernier point, ben il reste à charge. Si vous avez 27 000 euros, 30%, il vous reste 70% à payer. Là, vous pouvez demander à votre banquier. C'est pas chose facile.
Alors, qui demande à vos banquiers ? L'individuel ou le syndic ? Le syndicat des copropriétaires ?
Alors, actuellement, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est individuel. Puisque vous n'avez pas de prêt collectif.
Donc, le syndicat des copropriétaires aujourd'hui, les syndicats de copropriétaires, que je comprenne bien, ne sont pas financés aujourd'hui ?
Non. Collectivement, ne sont pas financés.
Il n'y a pas de prêt collectif.
Il y a quelques mécanismes, mais déjà, ils sont limités en termes de montant, donc je vais passer outre. Mais pour les puristes, ça existe, mais c'est accessoire.
C'est un énorme sujet. Parce qu'entre les propriétaires occupants et les copropriétaires qui louent, il y a une vraie distorsion.
Ah, mais
parce que le propriétaire occupant, il n'est pas soumis à la même règle d'occupation de son logement, qu'il soit F, G ou peu importe. Par contre, le même appartement qui serait mis à la location sur le marché de locatif privé, lui serait soumis à une obligation. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on a des propriétaires occupants qui sont finalement les dindons de la farce de la rénovation énergétique parce qu'eux n'ont pas d'obligation, donc ils peuvent vivre en précarité énergétique, occupant, propriétaire. Et le propriétaire bailleur, lui, par contre, il est soumis à une obligation où il a absolument le besoin de rénover. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de discrimination ? C'est une question.
Alors, pour les investisseurs qui louent leur logement, effectivement, il y a les règles d'interdiction de loyer, enfin de leur logement. Donc, ils ont cette contrainte-là. Alors, on est sorti du financement bancaire, hein, mais on y reviendra par la suite. Donc là, les règles sont claires. On a dit l'ambition est très forte et même trop forte. Il faut laisser un peu de temps. Je suis désolé, mais il faut laisser un peu de temps. Et attention, les locataires vont en payer aussi les conséquences. Je vous ai parlé des chambres de bonne. Vous prenez les propriétaires...
Le propriétaire occupant qui n'a pas les moyens, par exemple, il dit « je ne peux pas, je ne veux pas les financer
».
Et qu'il est majoritaire dans la copropriété. Le pauvre investisseur bailleur, par exemple, lui, il n'a pas le choix.
Oui, alors je pense qu'ils sont... Ils sont tous les deux pénalisés très fortement. Et c'est le principe de la coercition. Hein. C'était quand même le raisonnement des pouvoirs publics, de dire « on va obliger ». Donc il y a coercition. S'ils ne font pas, faut être logique. Hein. Il y a une pénalité quelque part, mais le propriétaire qui habite dans son appartement, lui, est très pénalisé quand même, et même bloqué, je souscris à ce que vous dites. On a tendance à dire que deux notes, F et G, c'est une décote de l'appartement puisqu'on est en copropriété, de l'ordre de 20% de son prix. Donc, on annonce, ces messieurs font un diagnostic, disent bah, votre logement c'est G, boum, en gros, le propriétaire peut faire une décote de son prix de 20%. S'il reste dans son appartement et qu'il habite, ça ne lui fait pas plaisir, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ça ne change pas sa vie immédiatement. Ça va changer sa vie lorsqu'il va le revendre. Là où c'est plus compliqué, c'est que le propriétaire qui, de toute façon, voit sa famille grandir ou qui avait prévu de bouger ou mobilité professionnelle, va se retrouver pour acheter son futur logement avec un apport en vendant son appartement actuel de 20% de moins. Et là, nous commençons à rencontrer des propriétaires habitants, occupants, comme on dit dans la profession, qui avaient prévu, avaient un projet d'acquisition et qui disent, bah, vu que je suis décoté de 20%, je ne peux plus déménager. Et vous voyez de plus en plus des familles qui étaient dans des T2, dans TT droit et qui envisageaient de partir sur des surfaces plus grandes et qui disent, je ne peux pas le faire. Ça, donc, les locataires et les propriétaires occupants sont différemment pénalisés, mais sont tous les deux pénalisés.
Mathieu ?
Oui, ça reste global. On pense collectif pour la copropriété et c'est vrai que la sanction, entre guillemets, elle reste applicable à tous. Elle est différente, elle est simplement différente. C'est-à-dire que pour un bailleur, jusqu'ici, c'est aussi ce qui a amené, je pense, les réflexions des pouvoirs publics sur cette coercition sur les lettres énergétiques, c'est que vous n'aviez pas d'impact sur les charges. C'est-à-dire qu'une facture énergétique qui était énorme, elle n'avait pas d'impact sur un bailleur. Alors, elle pouvait avoir un impact sur l'attractivité du bien, déjà, ne serait-ce que parce que, alors, il y avait déjà la lettre initialement, et puis vous aviez une facture. Une facture de charge, donc évidemment qu'un appartement est beaucoup plus attractif avec une faible quote-part de charge mensuelle pour un étudiant, pour une famille. Malgré tout, le propriétaire bailleur, lui, il paye pas les charges énergétiques tant qu'il n'est pas occupant, entre guillemets, surtout si c'est loué. Pour un propriétaire occupant, c'est une de ses prérogatives, c'est de dire mais combien je paye de charges. Et aujourd'hui, avec la volatilité, on va dire, des prix de l'énergie, qu'on a connu assez récemment, on a eu 24 mois quand même assez difficiles, on revient a priori sur des niveaux des prix, notamment du gaz, qui sont assez intéressants. Mais ça nous a bien montré pendant 24 mois qu'on n'était absolument pas maître de combien on allait payer notre molécule d'énergie. Donc ce qui fait dire que plus je suis en capacité de maîtriser techniquement combien je vais consommer, plus je reste maître de mon niveau de charge.
Mais c'est vrai, Jérôme, que le discours à la fois du gouvernement, mais on peut le comprendre, c'était de dire que si vous améliorez la note énergétique de votre bâtiment, vous vivrez mieux. C'est un meilleur confort d'été, un plus grand confort dans l'hiver. Accompagné de ce qui intéresse tout le monde, c'est qu'au niveau du portefeuille, ça vous coûte moins cher. C'est ça l'idée du dispositif.
Ce qui sera le cas.
Oui, ce sera le cas.
Comme dit Mathieu, le risque, c'est que la personne qui a l'appartement moins bien isolé, peut-être, ou moins bien situé, aura peut-être une lettre... son DPE individuel qui ne changera pas. Donc on parle encore une fois de sanctions individuelles spécifiques à l'appartement. Le but de la rénovation est d'améliorer quand même le confort et de réduire les charges. Donc ça, c'est quand même le but qu'on veut tous et qui sera obtenu.
Le dispositif aujourd'hui, parce que vous, chez Axéo, c'est votre spécialité, vous accompagnez. Vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, vous accompagnez à trois niveaux, vous accompagnez à la fois par le conseil, parce qu'effectivement, vous aidez les personnes à se repérer. On a vraiment l'impression que c'est Kafka, parfois, c'est un peu Brésil, vous savez, le film, on ne sait plus vraiment où on se trouve. Et en même temps, vous diligentez les premiers audits pour aboutir, effectivement, à un plan pluriannuel de travaux, pour faire des audits énergétiques. Est-ce que vous pourriez, juste comme ça, pour nous simplifier un peu la vie, nous dresser un petit peu le panel de ce qu'il faut faire concrètement, à l'échelle collective. On parle des copropriétés urbaines. Tout à l'heure, Étienne l'a dit très justement, on a le DPE collectif et on a un DPE individuel. Alors, si vous pouvez aussi nous donner la différence, on serait plutôt preneur.
Si on parle du parcours, première question, c'est sur le parcours. Tout démarre aujourd'hui par le plan de travaux pluriannuel, qui est la partie audit plus le DPE collectif. C'est le point de départ pour réussir à établir plusieurs scénarios de travaux, avec plusieurs réductions d'énergie. Et après, on a...
Mais le préalable, c'est le DPE ou c'est le PPT ?
Alors, ça va ensemble. Le PPT est à la fois un audit énergétique, avec différents scénarios de travaux, et un DPE collectif.
OK.
Une fois qu'on a ça, on est capable d'aller en conseil syndical ou en AG à présenter ce résultat pour passer après à la phase travaux. Le lien qui nous manque, c'est quel sera le reste à charge. Donc là aussi, on a une forme de soutien, de conseil, c'est-à-dire comment réussir maintenant à aller obtenir les bonnes subventions en fonction de chaque copro, chaque locataire, chaque personne. Donc là aussi, c'est individuel.
Mais ça, est-ce que ça, vous le faites dans une seule assemblée ou il en faut plusieurs, finalement ? Quand vous arrivez, par exemple, avec le PPT et le plan travaux, vous l'avez chiffré ? Vous avez chiffré les travaux.
Et c'est ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est, il est utopique de penser que, par exemple, lors d'une seule assemblée générale...
Ouais, ma question.
Il y a un élément extrêmement simple. Vous prenez la décision, la copropriété prend la décision de réaliser un plan pluriannuel de travaux avec évaluation énergétique.
Très bien.
Voilà. Elle prend cette décision. Quoi qu'il se passe, de toute façon, il s'écoule une deuxième assemblée générale pour présenter les résultats. On va dire que dans un schéma classique, on est à plus 12 mois pour la prochaine AG ordinaire. Et dans un schéma un peu plus volontaire, une copropriété qui aurait vraiment une volonté d'accélérer, c'est une assemblée générale extraordinaire. Déjà, de base, ça nécessite une action. C'est-à-dire qu'on prend la décision de faire une AGE, donc on a des coûts associés, on a un syndic qui doit suivre ce que demande la copropriété. Donc voilà, on peut avoir cette démarche d'aller un peu plus vite. Mais on est dans un schéma où il s'écoule 12 mois. On a déjà deux AG. À cette deuxième AG, on présente un plan. Est-ce que dans ce plan, la copropriété est déjà tout de suite en mesure de prendre la décision de dire oui, je pars sur mon fameux plan à 27 000 euros par logement, avec un reste à charge estimé de X.
Avant de commencer le premier travail.
Il faut forcément un peu plus de réflexion.
Donc il faut 3 ans.
Et il faut globalement.
Parce qu'il y a effectivement toute la partie financement qui va prendre aussi du temps. Donc soit les copros ont de l'argent, sont moteurs, veulent absolument investir rapidement et elles le font. Mais là, on parle d'un pourcentage très faible, comme dit Étienne. Hein, nous, c'est quelques aujourd'hui, dizaines. Donc c'est extrêmement faible. Il y a un vrai sujet sur le financement, un peu compliqué aujourd'hui, qui dépend de chaque région. Ça, c'est un vrai sujet politique.
Alors justement, c'est la dernière partie du décryptage avant la réponse aux questions, puisqu'on a des questions qui sont posées par les auditeurs. C'est justement la question cruciale du financement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un peu la dent creuse du dispositif. Vous avez estimé la prise en charge au global au maximum de 30%. Est-ce qu'on est sur un maximum, Étienne de Quéré, ou est-ce qu'on peut encore espérer pouvoir couvrir beaucoup plus ? Parce que ça reste quand même 70% à financer, qui est réparti ensuite par les propriétaires. Est-ce que c'est réparti de façon égale ou est-ce que c'est réparti en fonction de la surface du logement que chacun occupe ?
Pour être précis, toujours pour les syndics professionnels.
Vous avez raison de parler de syndics professionnels. À partir de combien de lots on a un syndic professionnel ?
C'est pas lié au lot, c'est un choix de gestion de la copropriété. Vous passez par un syndic professionnel ou vous passez par un syndic bénévole, c'est-à-dire c'est un habitant qui se dévoue pour gérer la copro.
Voilà. En général, il y a quand même...
On a tendance à dire que syndic bénévole sur des copros qui commencent à être supérieurs à 30-40 logements, ça devient un véritable métier. Oui. Quoi. Donc, mais bon, c'est pas
donc
directement
ça veut dire qu'il y a des, donc ça veut dire qu'il y a des copropriétés qui passent au-dessous du radar par rapport à des professionnels.
Oui, bien sûr. Non, c'est pour ça que je précise à chaque fois, je ne peux parler légitimement que au sein de Pluriance et des organisations professionnelles syndicales où là on collecte beaucoup d'informations dans ce sens. Donc les informations que je vous donne, c'est les copropriétés gérées par des syndics professionnels. Je ne peux pas vous dire. Bon. Les subventions vont au pas de la fourchette à 20% et peuvent monter jusqu'à 35%. Ça dépend notamment des systèmes qui sont mis en place au niveau local, notamment des villes, des régions. Là, vous avez toujours des mécanismes complémentaires qui viennent abonder. C'est là où on estime que le Graal, c'est 35%. Ce qui est quand même pas mal. Je sais bien que c'est toujours un reste à charge.
Est-ce que ce sont des aides, Étienne, qui sont différentes d'une région à une autre ?
Oui. Alors, vous avez des aides qui sont nationales. MaPrimeRénov, c'est un système national global. Vous avez des systèmes régionaux. Puis après, vous attaquez par capillarité.
Département, ville.
Département, ville, communauté urbaine, etc. Donc oui, ça s'empile. Vous avez un certain nombre de grosses métropoles où vous avez 24 systèmes qui s'empilent.
Voilà. 24 systèmes.
Moi, j'en ai repéré 24 sur notamment une ville. Oui, et ça a été régulièrement...
Pourquoi faire simple ?
Sans oublier des cahiers des charges qui sont spécifiques, c'est-à-dire des demandes techniques ou réglementaires qui vont être spécifiques à chaque strate, couche.
On va être optimiste, on a financé 35% des travaux. Oui. Il reste 75% à financer. Il reste, 65% à financer. Y a-t-il aujourd'hui des entreprises bancaires, des financeurs, très concrètement, très basiquement sur ces dossiers, ou pas ? où chacun, finalement, c'est un peu le Far West, va devoir gérer lui-même auprès de son banquier, en fonction de l'hétérogénéité aussi des situations, de ceux qui ont les moyens et de ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y en a qui n'ont carrément pas les moyens, ils ne peuvent déjà pas financer leurs charges à peine, comment financeraient-ils des charges supplémentaires ?
Alors je réponds tout de suite à la question, sur juste les subventions. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est parce qu'en fait, visiblement, tout le monde veut aller sur la rénovation. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tout le monde est moteur dans l'histoire. C'est juste que ça manque un peu de coordination. Voilà, donc je me permets de vous dire, nous demandons au pouvoir public un organisme qui coordonne ça, parce qu'il faut quand même louer...
Un guichet unique.
Si je vous dis 24 subventions dans certaines 24 types de subventions, au moins elles existent.
Mais c'est le rôle de l'ANA, ça
Il y a beaucoup de questions là-dessus. On l'a demandé plusieurs fois, c'est-à-dire un organisme centralisateur ou coordinateur. Je ne vais pas aller dans les détails des subventions, mais c'est vraiment différent d'une structure à l'autre et le mode de versement.
Mon accompagnateur Rénov, dont le décret a été voté, est-ce que ça fait partie de cette dynamique ?
Non, je ne le vois pas. Je ne vois pas traiter ça. C'est actuellement, si vous voulez monter un dossier de financement de subvention, il faut des compétences d'ingénierie financière qui dépassent l'entendement. Enfin, je pense que là, il faut le vivre. Il faut remplir un dossier de subvention. Je pense que ça serait la meilleure explication. À vie ma vie. Et encore, ma prime rénov entre régions, c'est déjà pas les mêmes demandes. Donc, vous voyez déjà le système c'est national clair. N'est pas uniforme. Mais on peut y passer des heures dans l'émission là-dessus. C'est compliqué. Faut se louer, ça existe. Okay. Il y a des volontés réelles, donc il faut encourager ces volontés. Je pense juste qu'il faut se coordonner, se mettre autour d'une table pour rendre les choses plus simples, plus visibles. C'est un élément extrêmement important pour la décision d'Assemblée Générale de pouvoir dire sur 27 000 euros de travaux, vous toucherez 6 000 euros de subvention. Le ménage concerné peut du coup se projeter. Si vous lui dites c'est 27 000 euros, mais on ne sait pas bien combien vous allez toucher, je pense qu'aucun des auditeurs ne prendrait une décision sérieuse en disant bon, go. Voilà. Donc, c'était quand même un sujet important et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir trouver des solutions si on arrive juste à se mettre autour d'une table.
Avec des organismes bancaires.
Alors après, il reste les 70% de reste à charge. Alors effectivement, soit vous avez l'épargne et là, c'est plutôt les ménages qui ont les moyens. Et on revient sur la question l'économie d'énergie pour les ménages qui ont moins de moyens, c'est pas très logique. Donc on se retrouve sur un financement bancaire ou parabancaire, parapublic ou des choses à imaginer. On a énormément travaillé les gestionnaires en relation avec les banques, toutes les banques, qui d'ailleurs ont été appelés par le gouvernement il y a 2 mois au ministère pour comprendre que les banques devaient s'intéresser au financement des copropriétés, ce à quoi elles s'étaient engagées. Force est de constater que nous travaillons quotidiennement avec les banques et les banques ont quand même beaucoup de mal à trouver des solutions pour financer les travaux de rénovation de copropriétés à travers un prêt collectif. C'est très très difficile. Beaucoup de banques ont abandonné, d'ailleurs, nous ont annoncé qu'elles n'y allaient pas. Pour beaucoup de raisons, techniques, monétaires, rentabilité, complexité de la copropriété. Donc là, on a un vrai trou dans la raquette, c'est-à-dire le financement des banques. Il faut continuer, il y a encore des banques qui travaillent là-dessus. Je pense qu'il y a des solutions, mais je vous expliquais, il faut un savoir-faire, ça s'apprend. Et pour l'instant, le financement bancaire d'un prêt collectif, ça n'existe pas.
Alors,
vraiment.
Alors vous les accompagnez, vous accompagnez, donc vous maîtrisez le sujet.
On le fait, mais c'est compliqué, je rejoins Étienne, c'est compliqué. Donc on appelle à une simplification, à une harmonisation entre régions. Ça c'est un vrai sujet pour réussir à aller plus vite. Aujourd'hui, ce qui pêche, c'est la complexité, la longueur des dossiers. Donc si on veut accompagner cette rénovation, il faut aller plus vite, trouver des financements. Et pour cela, simplifier, un seul guichet nous aiderait.
Ça, c'est clair. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas dire que l'air ne soit pas axéenne, si je peux dire des choses comme ça. Puisqu'effectivement, déjà que c'est compliqué, alors il vaut mieux effectivement avoir recours à des services comme les vôtres pour pouvoir diligenter effectivement les travaux. Je sais que dans les grands groupes, c'est exactement ce que vous faites. Très rapidement, on a dépassé un tout petit peu le timing, mais j'aurais quand même qu'on passe à la séance de réponse aux questions, qui est le principe aussi de l'émission.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
Question qui nous est posée, très basique, voilà, un property, je gère des bâtiments, je dois les rénover, c'est quoi la première chose que je dois faire ? Voilà.
Ah bah j'aurais envie de vous dire déjà...
Première étape, on va dire, je commence.
Quel est mon patrimoine ? Est-ce que j'ai des obligations réglementaires ? Est-ce qu'on est notamment sur les plans pluriannuels de travaux ? Combien j'ai de logements ? Est-ce que j'ai des copropriétés qui sont moteurs ?
Ok.
Vraiment. On a vraiment cette question-là. Est-ce que je peux être éligible à des travaux liés à ma prime rénov'? Donc, je peux partir sur une notion de financement. D'accord. Et quels travaux je vais réaliser? Et c'est vraiment cette notion d'études initiales qui va nous permettre de dire je peux envisager des travaux qui vont me sortir d'une situation soit de consommation excessive, soit de l'être énergétique qui est coercitif dans quelques temps. C'est donc ça le bon conseil pour les copropriétaires.
Donc ce property qui gère en bloc, par exemple, un bâtiment, dit finalement, c'est la seconde question, c'est je dois faire appel à un expert pour m'accompagner sur la question.
Alors, de toute façon...
En fait, c'est pas tant la compétence qui est concernée que l'afflux massif d'informations...
Ça n'est absolument pas la compétence. C'est-à-dire que la compétence d'un syndic, d'un property manager, d'un gestionnaire de patrimoine, elle n'est pas du tout mise en question sur le fait de comment... Est-ce que je sais quels vont être les travaux à réaliser ? Les gestionnaires de copropriété, aujourd'hui, sont souvent les mieux placés pour donner un petit peu la tendance sur un bâtiment, parce qu'ils ont suivi des travaux de rénovation globale au fur et à mesure des années, ils ont le carnet d'entretien du bâtiment, ils connaissent leurs copropriétaires, ils savent les situations parfois difficiles qu'il peut y avoir en termes de financement notamment. Donc on a toute cette donnée qui est directement chez le syndic. Par contre, techniquement parlant et réglementairement, de toute façon, il y a l'obligation d'un acteur indépendant, donc un troisième acteur, la copropriété, le syndic et le bureau d'études, le diagnostiqueur, qui vont intervenir pour venir faire le constat précis de ce qui va être à réaliser.
Alors, on pose une question, alors elle s'adresse à vous deux. Une personne gère un patrimoine mixte. Il y a du bureau, il y a du logement et il y a du commerce. Question, est-ce que je procède différemment selon la nature de destination de l'immeuble en question? Là, apparemment, le type, il a carrément de l'hôtellerie, du logement et du commerce de bas d'immeuble.
On trouve de plus en plus, en tout cas ça fait partie, les immeubles de centre-ville, on a des logements, on a eu des destinations différentes, on a des immeubles hôteliers comme vous disiez, on a plusieurs réglementations qui s'entrechoquent, si c'est usage principal d'habitation, on est sur loi climat et résilience, on parle notamment du plan pluriannuel de travaux, si on est sur des surfaces supérieures à 1000 m² en tertiaire, typiquement hôtellerie ou commerce, là on passe sur la notion de décret tertiaire. D'accord. Avec des obligations également de baisse de consommation à plus long terme.
Ça fait plaisir à entendre. Hein. Je veux dire que vaut mieux avoir des experts qui nous accompagnent. On pose une question, c'est la troisième et dernière question qui est posée à vous, Étienne de Quiré. On sait que Sergic fait de la résidence gérée. Est-ce que les résidences gérées sont soumises aux mêmes obligations ? Résidence senior, résidence étudiante. Question d'ailleurs, puisque souvent on ne la pose pas pour l'hospitalité, vous savez.
Les résidences gérées seront soumises au même décret. L'avantage, c'est que les résidences gérées sont assez récentes. Donc en fait, quand on parle d'immeubles à rénover, souvent c'est des immeubles qui sont assez anciens. Donc en fait, oui, il peut y en avoir, mais la majorité des résidences sont peu concernées, puisque sont très récentes et respectent les différentes règles d'urbanisme qui ont été mises en place, notamment en 2012, et ce qui suit. Mais oui, c'est les mêmes.
Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on vous a un peu éclairé la lanterne par ces difficultés un peu pléthoriques qu'on a à financer, à organiser, à structurer, à accompagner les copropriétés. Mais c'est un peu le rôle que vous avez, messieurs. Je pense qu'on devrait même travailler sur un projet de loi de la sécurité sociale pour faire rembourser les prestations d'accès par le service public. Parce que, non mais franchement, heureusement qu'il y a des experts, parce que c'est une galère totale. Voilà, une galère totale. Axéo, on vous a bien évidemment sur le site internet où on a toutes les prestations, l'éventail des possibilités, à rappeler aussi que vous intervenez sur l'ensemble du secteur. Je voudrais qu'on vous remercie, Jérôme Spencer, président d'Axéo France. Merci à Mathieu Ledrezen, directeur commercial d'Axéo France. Un grand merci également à notre grand témoin du jour, Étienne de Quiré, président du directoire du groupe Sergic, président également de l'association Pluriance qui regroupe les plus grands groupes immobiliers français. Et c'est pas neutre du tout. On va vous revoir d'ailleurs bientôt pour nos prochaines tribunes où le sujet sera encore une fois développé. Mais la vitalité d'une bonne démocratie, c'est encore une fois de remettre les sujets de débat sur la table comme il convient. Merci à toutes et à tous. Le podcast, comme d'habitude, à récupérer sur les plateformes d'écoute. Prenez soin de vous.
Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.